Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse, ou tout simplement inspirés, partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de Sagesse. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Envie de Sagesse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Moïse Rassiwala. Bonjour Moïse.
Bonjour.
Alors, c'est une rencontre un peu particulière. Je vous ai découvert dans une revue, dans une belle revue qui s'appelle Panorama. Et lorsque j'ai lu l'article, j'ai vu que vous habitiez pas trop loin d'Agen. Et je me suis dit, là, il faut que j'aille à la rencontre de cet homme. Parce que vous avez vraiment un parcours très intéressant au niveau de votre recherche intérieure, au niveau de votre quête de sagesse. Voilà, je ne vais pas me dire trop non plus parce que c'est vous qui allez vous présenter. Ce que je peux dire, c'est que vous êtes indien, né musulman, et aujourd'hui, vous êtes un diacre de l'Église catholique. Vous habitez à l'île Jourdain, dans le Gers. Et voilà, on a très envie de savoir un petit peu, de connaître un peu tout votre cheminement. Alors Moïse, par quoi on commence? Vous êtes né en Inde?
Oui, par exemple. Voilà, comme j'ai écrit dans l'article... je suis né dans une famille musulmane, chiite. C'est une petite, toute petite minorité, à peine un peu plus d'un million dans le monde entier, hein, cette branche du chiisme. Et tout ce que j'ai fait après, jusqu'à devenir diacre maintenant, c'est un fruit de l'histoire et de multiples rencontres dans différents pays. La seule chose que j'ai fait, j'ai jamais hésité à changer d'option, quelle que soit que je sois en train de faire, pour essayer autre chose. Enfin, ça commençait bien sûr par la scolarité, ça c'est évident.
Oui, jusqu'à quel âge vous avez vécu en Inde?
20 ans, 21 ans. Voilà. Disons jusqu'à la licence.
D'accord.
Voilà. Alors donc ça fait 11 plus 2 ans, 13 donc, de scolarité. Depuis le primaire et le collège, l'université compris. Hein, donc,
oui.
Ça fait 15 ans, en gros.
Donc, voilà. Vous étiez en Inde, dans une famille musulmane, et donc vous avez reçu une éducation musulmane. Vous avez appris le Coran, l'arabe aussi, j'imagine.
Non, hélas, non. Le Coran, je l'ai appris à déchiffrer sans comprendre. Voilà.
Ah bon?
Il fallait, c'est un rite de passage, si vous voulez, obligatoire. Il fallait pouvoir le lire. Donc, je sais déchiffrer. J'ai plusieurs versions de Coran. Alors, je peux le lire, mais sans rien comprendre. Parce qu'on apprend. Seul le clergé dans notre communauté, le haut clergé, je dirais, maîtrise l'arabe. Hein, voilà, donc,
le clergé, vous voulez dire le clergé? On dit clergé pour les musulmans?
En fait, j'ai traduit un peu, oui.
Oui.
Voilà. Mais ceux qui ont, disons, l'autorité religieuse, hein, des autorités religieuses.
C'est-à-dire les imams?
Non, c'est pas des imams. Chez nous, c'est. Imam, c'est. Je veux pas trop compliquer les choses. Si vous voulez, c'est un des grades, c'est mollah, imam, etc. Hein, cheikh, il y a différents. Dénominations. Voilà, donc, n'importe quel mollah, en fait, c'est un. Le bas de l'échelle en fait des autorités religieuses, que lui-même peut-être parlait pas arabe, hein, mais il savait parfaitement bien réciter le Coran, et sa fonction était tout simplement venir à la maison nous faire réciter du premier verset jusqu'au dernier verset, hein, voilà, donc le psalme lié comme il faut, mais
et vous alliez à la mosquée?
Oui. Pour les fêtes, et oui.
Ah oui.
Le mois de Ramadan, le Nouvel An, voilà.
Alors, ce que je découvre, c'est que votre père vous a quand même mis dans une école jésuite.
Tout à fait. Parce que, en Inde, pour avoir une bonne éducation, il faut choisir le privé, hein, toujours. Ah. Dans le privé, il y en a beaucoup, enfin, donc, à cause de l'histoire, de la mission et autres. Les jésuites sont très présents en Inde. Ils ont plusieurs écoles, notamment dans les villes, et maintenant de plus en plus en milieu rural aussi. Ce sont des écoles très recherchées parce que l'éducation est de d'un très bon niveau, en fait, voilà. Donc on a, les parents peuvent être tranquilles. Et mon père a voulu me mettre dans une école jésuite qui était obligatoirement en fait en anglais.
Ah, c'est en anglais. Donc vous parliez quelle langue à cet âge-là?
Ma langue maternelle, qui est en réalité de Gujarat, le Gujarati. Hein, voilà.
D'accord, Gujarati.
Donc ça, on parlait à la maison. Mon père ne parlait pas anglais, pas très bien. Il comprenait peut-être quelques mots. Mais dans l'école jésuite, c'était en quelque sorte aussi un passeport pour l'avenir. De parler, être anglophone en Inde, hein, parce que c'est le.
Ah oui, eh oui, oui.
Du colonisateur.
De la colonie, oui, oui, de l'époque de Gandhi.
Aussi, et puis c'est la seule langue qui unifie le pays.
Vous avez connu Gandhi quand vous étiez enfant?
Connu par les journaux et
par
tout
les
ça.
Journaux, parce que vous entendiez
quand
parler.
Quand il est mort,
de lui.
J'étais quand même assez jeune. Voilà, ah oui. Donc, oui, j'étais enfant. Oui.
C'est une terre, finalement, l'Inde, où il y a des grands héros, j'allais dire des personnes remarquables. Parce qu'il y a eu Gandhi, bien sûr, avec qui est maintenant, oui, on peut dire un héros d'aujourd'hui, un sage. Mmh. Et puis il y a eu Mère Teresa.
Aussi, oui, oui, oui. Ça n'avait rien à voir. Les
rien
deux ne se connaissaient
voir,
pas. Non, les deux ne se connaissaient pas.
Deux personnes remarquables.
Oui, tout à fait. Oui. Mais l'Inde a produit aussi, si vous voulez, la génération qui nous a conduit à l'indépendance, libération des Anglais, a été une génération remarquable. Il y avait non seulement Gandhi, mais aussi le premier homme qui était le premier ministre de l'Inde indépendante, Nehru.
Oui.
Sa fille plus tard était aussi premier ministre, Indira Gandhi.
Oui.
Voilà, donc c'était une famille assez remarquable, et pas seulement lui, mais aussi d'autres chefs de politique en fait, dirigeaient. Il y avait.
Alors on va revenir à vous. Vous ne parliez pas le français encore.
Ah non, loin s'en faut.
Ça s'est venu bien après.
Ah oui, bien après. Oui. Bon, mais j'ai appris très rapidement l'anglais parce que c'était obligé. On ne pouvait pas parler autre chose, tout était en anglais. Voilà. Donc, y compris dans les récréations et tout ça. Il était interdit de parler Gujarati, en fait, une autre langue que l'anglais.
Ah oui, on connaît bien, effectivement, les interdits.
Voilà,
coloniaux.
Voilà.
Et on en entend parler même ici en France.
Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Mais alors, c'est une méthode peut-être, maintenant je le juge un peu brutale, parce que ça m'a privé de l'apprentissage de ma propre langue maternelle.
Oui.
Mais très efficace, parce que quand j'avais 4-5 ans, je parlais couramment anglais, et maintenant... Entre frères et sœurs, nous parlons anglais. Plus facilement que l'anglais, que notre propre langue maternelle. Hein, voilà. Donc il y a.
Alors vous avez donc passé votre licence et de physique et vous êtes parti pour l'Allemagne. Alors là maintenant encore l'apprentissage d'une nouvelle langue, bien sûr.
Oui. Vous savez, j'avais plein d'esprit d'aventure. En fait, je n'y pensais même pas qu'il y avait une nouvelle langue à la clé. C'était plus la physique qui m'intéressait. Quand j'étais pris dans une université assez réputée, j'ai accepté tout de suite, si vous voulez. D'autant plus qu'on me promettait aussi d'être assistant aux travaux pratiques en physique des premières années, qui me permettait de gagner un peu ma vie pour vivre là. Et c'est comme ça que je suis allé en Allemagne. Et là, effectivement, j'ai rencontré parce qu'il était un étudiant en théologie, hein,
oui.
La faculté protestante, hein, plutôt, qui m'a invité chez son beau-frère, qui était pasteur, luthérien, en fait. Donc, c'était une famille de pasteurs, si vous voulez. Hein, voilà. Donc,
ça a été votre deuxième contact, puisque vous étiez déjà dans une école jésuite.
C'est ça. Mais là, ça m'a donné peu de contacts en Europe. En Allemagne, rien.
Oui.
Chez les jésuites, tout lien était rompu quand j'ai quitté le collège. En fait, voilà. Donc, en Allemagne, non, ça n'avait rien à voir. Et c'était, le premier contact, on peut dire, hein, hors des professeurs jésuites avec lesquels je continue à correspondre. Oui.
Alors ensuite, vous êtes arrivé en France comme doctorant en astrophysique au CNRS.
C'est ça.
Donc vous êtes aussi un grand scientifique. Est-ce que dans cette période de votre vie, vous étiez déjà dans une recherche intérieure, dans une recherche spirituelle?
Tout à fait, parce que mon éducation en tant que musulman, ça me satisfaisait de moins en moins. Au fur et à mesure que j'ai appris l'allemand, en fait, voilà, donc j'ai appris aussi beaucoup de philosophie et comme j'allais chez des pasteurs, ce qu'on peut appeler aussi des ouvrages théologiques, hein, qui, sur le christianisme, eux-mêmes étaient des chrétiens vraiment très pratiquants, et par eux, j'étais ouvert au christianisme, et j'ai beaucoup appris de choses, voilà, donc, et ça m'a marqué, mais c'est, tout ça, il fallait connaître Thésée plus tard pour que ça fructifie, que ça se cristallise.
Oui, j'allais venir, c'est que j'ai découvert, donc, en 1967, vous avez découvert les frères de Thésée. Alors, pour les auditeurs, on va préciser un peu que le monastère de Thésée, c'est un monastère œcuménique qui regroupe des protestants, des catholiques, des gens de toutes les foi.
Oui.
Et il est connu parce que le frère Roger, un des fondateurs, ou le fondateur, si je ne me trompe pas, a été assassiné il y a quelques années.
C'est ça, oui, effectivement.
Voilà. Et donc, vous êtes un ami très proche, vous me disiez, de frère Roger.
Voilà. Depuis la fameuse soirée à Saint-Germain-des-Prés, hein, où je suis allé à la prière par hasard, et j'ai trouvé ça très paisible, et par la suite la possibilité de dialoguer, en fait c'est le hasard qui faisait que les faire rester un peu dans l'église pour parler avec les gens qui étaient là, et moi on a commencé à parler, je lui ai raconté un peu mes recherches, que j'étais en train de... l'éducation scientifique en tant que telle ne me comblait pas, que je voulais faire plus de choses dans l'humanitaire, si vous voulez, éventuellement.
Oui.
Et pas seulement quand on est dans la recherche scientifique abstraite, ce qui était possible parce que j'étais déjà au CNRS.
Oui.
Et alors
aussi...
depuis, on était très, très proches, on est resté très proches.
Oui,
depuis 67, voilà. Donc.
Juste avant de raconter votre rencontre, vous étiez aussi en parallèle en quête de culture et de beauté. La formation scientifique, vous aviez envie d'y apporter de la culture et de la beauté.
Ah, tout à fait. Oui. Oui. Bon, déjà la science est une culture en fait, donc ça c'est.
Oui.
Mais en plus de ça, bon, déjà je m'intéressais, je lisais énormément, hein, aussi bien en allemand que maintenant en français quand je l'ai appris, et j'ai aussi beaucoup apprécié la musique, voilà, donc la musique occidentale. Classique. Donc, j'avais un ami qui était très, très versé dans la musique baroque, en particulier. Donc, il construisait des clavecins. Il était scientifique aussi. Hein. Donc, par ce biais-là, je suis très vite familiarisé avec la culture française, voilà, le musical. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, je reviens à Frère Roger, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Frère Roger? Je sens qu'elle a vraiment joué, ça a été quelque chose, un moment très spécial.
Tout à fait. Comment dire, bon, la première fois, je vous ai raconté, c'était dans l'église après la prière. C'était un simple entretien. Mais après, un peu plus tard, il a voulu me recevoir. Il restait quelques jours à Paris à l'époque. Hein, voilà, donc, et ils avaient un appartement tout près de Saint-Germain-des-Prés. Donc, j'étais invité à prendre une tisane, je sais pas quoi, le soir. Et puis, il m'a invité à Thésée aussitôt. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous. On s'est bien entendu. Moi, j'avais l'impression qu'elle m'avait très, très bien compris.
C'est inexplicable quand même, des rencontres comme ça.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Il y a quelque chose qui vous a attiré chez lui.
Tout à fait. Pour la première fois, je pensais que toute ma recherche, je voyais une solution, en fait, un but.
Ah oui.
Donc, surtout quand il m'a invité d'aller à Thésée, je n'ai pas hésité. Oui. Pourtant, c'était pas à l'époque où il y avait foule en hiver, en fait, parce qu'il n'y avait personne.
Comment il était? C'était quelqu'un de rayonnant? Il y avait quelque chose en lui de... Vous le dites dans l'article que vous avez écrit, qui a écrit dans Panorama, qu'il avait un visage éclairé comme par un rayonnement intérieur.
Effectivement, c'était un homme qui avait beaucoup de patience dans l'écoute. Hein, voilà. Donc, D'ailleurs, ça a continué à Thésée. En fait, après la prière, qui veut, pouvait parler avec lui, ne plus. Et il était vraiment ce qu'on appelle un homme d'écoute. C'est-à-dire, il ne donnait jamais des conseils tout prêts, tout cuits. En fait, voilà. Donc, oui. Vous devez faire ceci et cela. Voilà. Essentiellement, il vous renvoyait à vous-même. Voilà. Donc, de chercher là où vous étiez, mais d'une telle manière que on trouverait, si on cherche, on trouve. Voilà, donc c'est cet aspect-là qui m'a beaucoup impressionné. Voilà, donc,
Et à partir de là, vous avez commencé un long chemin avec Thésée.
Oui, alors, entre-temps, bon, j'étais en Algérie, après ma thèse de doctorat à Paris, et en Algérie, j'ai rencontré ma femme. Et avec ma femme ensemble, on a été à Thésée.
Votre femme, elle est algérienne ?
Non, elle est française. Elle était française. Elle est décédée il y a 2 ans. On s'est connus, mais on s'est connus en Algérie. Parce qu'elle était coopérante en Algérie. Voilà. Donc, on s'est connus à Constantine. Et on s'est mariés. Et puis, à Thésée, en ce moment-là, on avait besoin d'un groupe plus important pour l'accueil des jeunes qui venaient de plus en plus nombreux. Donc nous étions invités comme la plupart des gens étaient des jeunes qui prenaient un an de leur étude ou de leur... Mais nous, on était parmi les 2 ou 3 familles qui étaient invitées en tant que famille. Et on avait 2 enfants en adopté et puis un enfant, voilà, donc né de nous. Et c'est là qu'on a pris un engagement pour quelques mois, mais qui est en réalité devenu 8 ans, une année sur l'autre, avant de retourner en Inde. Voilà.
Alors, nous allons faire la première pause musicale et nous reviendrons tout de suite après. Vous êtes toujours dans l'émission Envie de sagesse. Je suis en compagnie de Moïse Rassiwala. Et Moïse nous racontait un petit peu son parcours de l'Inde en passant par l'Allemagne, en arrivant en France, puis en Algérie. Vous avez beaucoup voyagé. Et à travers ces voyages, vous avez aussi remis en question beaucoup de choses. Vous avez appris des nouvelles langues et vous avez rencontré des nouvelles foi. On pourrait résumer comme ça votre parcours.
Certainement, j'ai rencontré surtout le christianisme.
Et le christianisme, voilà, arrivé à Thésée avec frère Roger.
Ceci étant dit, j'ai aussi approfondi ma connaissance de l'hindouisme, parce qu'on m'a posé des questions, tout simplement, de la religion qui est majoritaire en Inde.
Et oui, donc voilà. vous êtes riche de plein de cultures et plein de religions. Oui. L'islam, l'hindouisme, le protestantisme et puis maintenant l'église catholique. Mm-hmm. Et alors donc, au début que vous alliez à Thésée, vous dites que vous étiez un peu entre deux chaises, vous n'aviez pas envie de choisir une religion. Vous étiez bien dans cette pluralité, pourrait-on dire.
C'est ça. Je vivais de fait une pluralité de croyances et aussi approfondie un peu. En fait. Mais finalement, il fallait opter là-dedans. Je trouvais ça pas possible de rester toujours entre plusieurs religions.
Vous aviez envie d'en choisir une et de l'approfondir.
L'Église catholique, voilà, c'est ça. Me paraissait naturel, apaisé. Pourtant, Frère Roger était protestant, comme vous le savez. Hein. Il était pasteur.
Non, je ne savais pas, je le découvre.
Oui, voilà. Mais il était protestant, voilà. Mais il a fondé une communauté qui accueillait aussi des catholiques. Hein, voilà.
Je pensais qu'il était catholique. Vous m'apprenez chose.
Non. Frère Alois Lé, maintenant l'actuel prieur. Mais lui, il était protestant. C'est ça l'originalité en tant que pasteur protestant. Il a fondé une communauté qui accueillait des catholiques et aussi des orthodoxes.
Voilà. C'est très visionnaire.
Oui, c'est ça. Donc il est visionnaire. Ouais. Il ne voyait pas l'Église divisée entre différentes...
Vous, dans toute cette pluralité de choix, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir, finalement, de vous faire baptiser à l'Église catholique ?
C'est ça.
Aujourd'hui, vous êtes diacre. Qu'est-ce que c'est qui vous a motivé ?
Il me semblait que je naviguais trop entre différentes religions...
Mais pourquoi vous n'avez pas choisi, par exemple, les protestants, les orthodoxes?
C'est ça, voilà.
Vous
ne
savez pas?
Si, je le sais, en fait, l'intérieur, habitant Thésée, allant régulièrement aux offices, j'ai beaucoup médité dans quelle direction je devais. Et là, quelque chose me disait, bien que ma femme était protestante, voilà, donc ma belle famille est protestante aussi, comment il fallait de l'Église catholique, mon choix.
Ça vient d'au-delà de vous, quelque part.
De moi-même, d'une très grande profondeur que je ne saurais pas expliquer. Voilà. Donc, j'ai demandé à Frère Roger, qui est tout à fait d'accord. Et personne n'a jamais essayé, y compris mes amis allemands, que je devienne protestant. En fait, pourtant, j'étais évangélisé en quelque sorte par eux.
C'est un grand mystère, hein.
Et
c'est une belle ouverture de la part de toutes ces personnes autour de vous qui vous ont laissé le choix total de où est-ce que vous avez envie d'aller.
Là, j'ai la très grande chance. Ça commençait très tôt avec mon père, ma famille, hein, qui m'a laissé aussi beaucoup d'ouverture dans le choix des études. Quand plus tard je suis devenu catholique, ma famille est bien sûr au courant et il reste musulman et on est très proches. On se téléphone. Donc,
quelle richesse alors, des parents musulmans, une épouse protestante et vous êtes catholique.
Voilà.
C'est magnifique.
C'est comme ça, voilà. Et diacre, parce qu'une fois que j'étais dans l'Église catholique, à Thésée, on ne vit pas vraiment dans l'Église catholique parce que ce n'est pas une paroisse. Si vous voulez, Thésée, bien sûr, c'est une paroisse comme toute commune est dans une paroisse en France. Mais. Thésée en tant que telle est une communauté monastique. Et c'est quand j'ai trouvé ma profession, si vous voulez, au conseil régional en Midi-Pyrénées, à Toulouse. Après, on a choisi d'habiter la campagne, pas loin de Toulouse. J'ai travaillé à Toulouse, mais on a habité l'île Jourdain dès le départ. Voilà, donc ça fait un certain nombre d'années qu'on y est. Et bien sûr, où qu'on aille, que ce soit en Inde ou en France, on allait à l'église catholique, y compris ma femme. Et ici, après quelques années, le curé m'a demandé si je voulais devenir diacre. Comme je ne savais pas absolument pas ce que c'était, j'ai dit, je vais réfléchir. Et puis, il y a eu quelques soirées d'informations sur le diaconat, etc. Voilà. Donc, je suis allé, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, il y avait une formation à la clé, hein, d'un week-end, plusieurs week-ends par an, pendant 4 ans.
Ah voilà. Oui.
Y compris pour l'épouse, hein, c'était obligatoire.
Ah, d'accord. Donc,
oui, oui. Elle ne devient pas diacre, parce que les femmes ne deviennent pas diaconesses, pour le moment, en tout cas pas. Mais la formation est obligatoire. Voilà. Donc, j'ai fait la formation, après j'étais ordonné diacre.
Alors, vous avez un parallèle de toute cette formation religieuse. Vous parlez aussi beaucoup de l'importance de la beauté dans votre vie.
Oui.
Tout ce qui est beau vous attire, vous a toujours attiré, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Je pense que la première approche, c'est la musique, hein, d'accord. Quand je suis fatigué, c'est ça qui me repose le plus, de mettre un disque. Et puis, aussi la peinture, voilà.
L'art.
Et la littérature, voilà. Donc,
et la littérature, d'accord.
Voilà, comme je peux lire en plusieurs langues, et je fais des traductions maintenant de... Enfin, j'ai appris ma propre langue comme il faut.
Ah oui.
Que je n'avais jamais fait comme...
Le Gujarati.
Voilà, c'est ça. Oui. Et je traduis de belles choses de la littérature Gujarati en français. Voilà. Il y en a qui sont déjà publiés, d'autres qui ont été publiés en janvier.
Voilà. Effectivement, je voulais qu'on en parle aussi. Donc, ce sont des contes.
C'est des contes.
Des contes, ça doit être vraiment super intéressant. Oui. On prendra les références. Donc, c'est les contes d'une population primitive qui vivait dans l'Himalaya.
Oui.
Et c'est une littérature merveilleuse.
Ou dans les collines centrales.
Ou dans les collines centrales. Bon, pour nous, ici en France, on va dire que c'est tout.
Oui. Même tout le l'Inde centrale est fait des collines.
Et, ah oui, ça va être. On a hâte de les découvrir.
C'est des milliers de kilomètres quand même des Himalayas. Ouais. Hein, voilà.
Ah d'accord, bah oui, effectivement.
Avant milliers, non, même. Au moins un millier de kilomètres.
C'est pour dire, nous avons hâte de découvrir ces contes. Et parmi. Donc vous parliez de littérature, vous avez lu aussi beaucoup de mystiques. Est-ce que vous avez des. Quels mystiques vous ont inspiré à travers toutes les différentes religions?
Plusieurs mystiques hindous, en fait, dans la musulman, des soufis, en fait, voilà. Parmi les, je ne vais pas vous donner des noms, en hindouisme, il y en a beaucoup, en fait, voilà. Parce que c'est une religion très tournée vers le mysticisme, en fait, les Védas et les Upanishads, etc.
Et oui.
Voilà, donc Tukaram et d'autres poètes du Kabir, ce sont de grands poètes, en fait, c'est des poésies qui sont absolument... Bon, moi-même, j'aurais pas. Toute une vie ne suffisait pas pour traduire là, toutes ces choses-là. Mais en Europe, en fait, ce qui. Parmi les mystiques chrétiens, c'est Saint-Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, etc. Voilà, donc Saint-Jean de la Croix, que j'aime beaucoup. Voilà,
Maître Eckhart aussi, vous avez parlé.
Maître Eckhart aussi, oui. Ouais. J'avais lu. Pas extensivement, mais un peu de tout ça. Voilà, donc grâce à mes amis allemands, surtout, qui avaient les livres qu'il fallait. Voilà, donc, voilà. Et maintenant, je chemine en tant que diacre.
Et puis, vous avez aussi écrit un livre, on ne l'a pas encore dit. En plus de ces contes que vous êtes en train de traduire, vous-même, vous avez écrit un livre.
Voilà, mon autobiographie.
Donc, un itinéraire indien.
C'est ça.
Il est sorti déjà, le livre?
Ah oui,
il est en librairie.
Ah oui, oui, c'est sorti au début de l'année.
Donc voilà. Vous racontez tout votre parcours dans ce
voilà,
livre.
Voilà, tout ce que je rencontre, c'est contenu dans ce livre.
D'accord.
Qu'on peut avoir dans n'importe quelle librairie, c'est sous mon nom. Donc,
Alors aujourd'hui, Moïse, vous avez 83 ans, et donc vous avez quand même un certain âge, vous vous approchez, on va dire, on est dans une émission de sagesse. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, à 83 ans, vous êtes beaucoup plus sage que quand vous aviez 20 ans, 30 ans?
D'une certaine manière, à maturité, certainement, hein, voilà, de pouvoir peser le pour et le contre, de faire des choix, voilà, donc ça fait partie de la sagesse. Mais la vraie sagesse, je pense qu'on n'acquiert jamais.
On n'acquiert jamais, c'est bien ça.
C'est vers la fin de sa vie, que peut-être qu'on peut prier hein, pour la sagesse, voilà. Mais, oui. Mais c'est tout, on l'acquiert jamais.
Voilà. Comment vous approchez la mort aujourd'hui?
Très librement, sans absolument... J'ai perdu ma femme qu'on était... on a vécu des dizaines d'années ensemble, on était très unis en tant que couple, et ça m'a laissé un grand vide, et ma petite fille qui est aussi morte accidentellement à 20 ans, donc ça a laissé deux grands trous.
Ah oui, c'est deux grandes épreuves.
Oui, oui, les photos sont là.
Ah oui.
Disons, depuis, j'ai plus tellement goût, malgré mes enfants, mes propres enfants, on était une famille très unie, heureusement. J'ai plus tellement envie de continuer, d'autant plus que en tant que diacre, je peux pour des raisons de santé, de respiration et tout ça, je peux plus célébrer ni baptême ni mariage. Mon activité en tant que diacre est réduite,
oui,
à des prédications. Dimanche si par exemple je vais prêcher à l'église, mais ça c'est la seule activité qui me reste encore disponible.
Et donc oui.
Ça devient de plus en plus restreint pour des raisons
en fait,
de santé.
Voilà. Vous êtes en train de dire que finalement, vous espérez finalement la mort, vous.
Oui. Moi, je suis tout à fait prêt, si vous voulez. Hein, que, je pense que les enfants auront beaucoup de chagrin, parce que, sans doute. Hein, mais moi-même, je n'ai absolument pas... ma fille se marie la semaine prochaine. Après, je n'aurai plus, disons, d'enfant directement. Enfin, elle ne dépend pas de moi, personne ne la dépend, heureusement. Donc, j'aimerais bien partir dans une condition où je suis encore tout à fait moi-même, plutôt que de finir malade à charge. Voilà. Pour le moment, je ne suis à charge de personne et j'aimerais bien partir comme ça. Voilà.
Eh oui.
Voilà.
Eh bien, je vais juste vous laisser un petit mot de la fin. Quel message vous auriez envie de transmettre aux auditeurs?
Regardez avec beaucoup de bienveillance et de sympathie ceux qui ne partagent pas votre culture, votre religion, qui sont différents de vous, voilà, autour de vous, dans votre pays. Je pense que la France est constituée comme ça et... C'est ce que j'aimerais passer, malgré tout ce qui se passe dans le monde, qui n'est pas très...
Ça, c'est un très beau message.
Oui. Voilà.
J'espère que nous l'entendrons.
Voilà.
Merci, Moïse.
Voilà, merci à vous. Voilà.